Je vais me présenter, donc Malcolm Ferdinand. Une des dimensions très importantes dans tout ce courant de pensée postcoloniale, c'est souvent de situer d'où l'on parle, de restituer un peu la personne et la corporalité de la personne qui va énoncer le propos. Donc voilà, je suis Malcolm Ferdinand, je suis martiniquais et je suis chercheur en philosophie avec cette double casquette, aussi ingénieur en environnement. Donc je remercie aussi Christine et Linda de m'avoir invité. Donc Christine et moi, enfin, c'est la première fois finalement qu'on va pouvoir échanger en tant que chercheur, parce que Christine connaît des pans de ma famille, notamment dans ses travaux très intéressants passés. Mais bon, c'est la première fois que on a l'opportunité d'échanger où j'ai une parole de chercheur et non, je ne suis pas quelqu'un qui est lié à ces études, donc je te remercie pour l'invitation à ce point-là. Donc, le propos, enfin, il y a eu plein de choses qui ont été dites déjà ce matin et cet après-midi au niveau de qu'est-ce que c'est que l'anthropocène, quand ça commence, comment le penser. L'introduction de Linda ce matin était vraiment très, très intéressante et surtout sur le plantationocine. Donc, voilà. Je n'ai aucune prétention théorique à vouloir cadrer ce que c'est que l'anthropocène, mais juste, enfin le plantationocène, mais juste une proposition, voilà, une proposition que j'ajoute à cette idée de plantationocène, qui est finalement de penser l'anthropocène depuis le navire négrier, qui est quelque chose que j'ai aussi initié dans ma thèse, penser l'écologie depuis le monde caribéen, penser l'écologie depuis la cale du navire négrier. Enfin, bon. J'espère qu'après, ça sera un peu plus simple. Donc, je vais essayer de traduire rapidement en français, mais dans un article en 2007, Crutzen, Stephen et Neil, qui s'appelle « Are humans now overwhelming the great forces of nature ?» proposent différentes étapes de l'Anthropocène, notamment Anthropocène Stage 1, où, in the year 1850, atmospheric CO2 concentration was of 285 ppm. It is within the range of natural variability. Up to then, things were pretty normal, pretty natural. 250. Et je vais commencer par une analogie politique à partir de ce qui se passait en 1852, le 5 juillet, à New York, où Frederick Douglass donne un speech qu'il appelle « What to the slave is the 4th of July ?» Dans ce speech, Frederick Douglass montre l'espèce d'hypocrisie qu'il y a à penser la naissance d'une nation, la naissance d'une nouvelle ère politique sur la terre américaine, sachant pertinemment qu'il y a, en excluant précisément la présence et les expériences de ceux qui sont en train de souffrir sous l'origine de l'esclavage. La radicalité de la question soulevée par Douglass ne contribue pas seulement à montrer l'exclusion des esclavisés de la nation et de la citoyenneté, comme si juste les prendre en compte serait assez ou serait suffisant pour continuer le grand récit américain. Je pense que Douglass ébranle le récit politique américain en son cœur et que le 4 juillet 1776 ne voulait pas dire une nouvelle ère politique pour les esclaves des plantations d'Amérique. Et le renversement implicite appelé par Douglass est celui-ci. There is not an American story that you can complement with a few lines of Negro enslavement and little manumission. In the words of James Baldwin, the story of the Negro in America is the story of America. Donc, ce que je propose, c'est qu'un raisonnement similaire peut être pensé à travers la question de l'anthropocène, à travers la même manière que Douglass suggère de repenser l'histoire et le récit politique américain. On peut penser aussi ce récit anthropocène et effectuer ce renversement. Donc, mis en avant en 2000 par Paul Crutzen, l'Anthropocène raconte une histoire. Enfin, le mot même dit une histoire. L'histoire d'une grande naissance, enfin, d'une ère géologique où le sujet anthropos devient une force géologique qui laisse, enfin, suffisamment importante pour laisser ses marques sur les strates de la planète. Et le récit naturaliste, enfin, qui a déjà été critiqué ici, voit la naissance d'une puissance technique depuis le paléolithique jusqu'à la révolution industrielle. Et dans cette histoire, anthropos, l'homme, a une place centrale. Mais pas n'importe quel homme, un certain type d'homme. Et pour décrire cet homme, je pense que c'est assez intéressant de voir comment McNeil, Crutzen et Stephen, dans cet article de 2007, racontent cette histoire. Alors, bon, je vais passer un peu trop vite, mais je prends juste une petite citation, cet article. Human activities have become so pervasive and profound that they rival the great forces of nature and are pushing the Earth into planetary terra incognita. Donc, pour représenter l'histoire de l'humanité en train de conduire à un changement climatique, ces scientifiques ont recours à une scène d'activité humaine qui amène à cette terra incognita. Et s'il y avait un doute sur la nature coloniale ou sur le substrat colonial de cette human enterprise, on n'a qu'à regarder finalement la similitude de ce récit-là qu'il propose dans cet article avec l'histoire de la colonisation de l'Australie. En particulier en 1769, aux commandes du navire The Endeavour, équivalent de The Human Enterprise, James Cook amène la civilisation britannique et européenne à la terra incognita de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, pourquoi doit-on toujours avoir recours à cette grammaire coloniale pour décrire les relations des humains sur Terre? Pourquoi cette perspective coloniale demeure? Et après tout, on ne devrait pas être si surpris que ça. Cela tient à deux raisons. D'une part, on peut tracer cette généalogie, on peut tracer ce récit à une généalogie une dépolitisée de l'environnementalisme et de la pensée écologique. Et par là, je veux dire qu'il y a un discours qui trace les origines des problématiques écologiques de manière détachée de leur contexte politique et historique. Enfin, il y a voilà, des penseurs environnementaux, notamment aussi dans l'éthique environnementale, John Bayer Callicott, mais Aldéo Leopold, Arne Naess, Henri David Thoreau, et pour certains même. Enfin bon, beaucoup de ces penseurs basent les scènes à partir desquelles on va penser les problématiques écologiques, depuis l'expérience d'un homme seul, d'un homme blanc face à la nature. Et que cette perspective se retrouve, à mon avis, dans tout ce qui a été dit sur la wilderness. Et l'Anthropocène, tel que le propose ce récit-là de l'Anthropocène, reprend les mêmes catégories, les mêmes perspectives coloniales. Alors bien sûr, cette perspective ont été déjà décrite et critiquée par des auteurs comme Cron Martin Zalier, Amash Tangura, Murray Bookchin, William Cronon, par Robert Bullard, Kensa Wira, on peut aussi citer Jacques Roumain à MIT, on peut citer André Gortz, et aussi par tous les mouvements les mouvements de justice environnementale. D'ailleurs, c'est un mot qui n'a pas encore été vraiment évoqué aujourd'hui, qui, je pense, a toute sa place, peut-être une place centrale, celui de justice. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est que ce récit colonial d'Anthropocène ne devrait pas être une surprise si on pense à l'absence de l'histoire de la colonisation et de l'histoire de l'esclavage dans la généalogie de cette pensée. Alors, bien sûr, on me dira, mais il y a des historiens qui ont étudié les impacts écologiques de la colonisation. Caroline Merchant, David Watts, Alfred Cosby, John McNeil, Richard Grove, Diana Davis, Mike Davis et d'autres encore. Cependant, des travaux se font dans ce sens, mais beaucoup moins de place a été accordée à cette histoire comme en tant que scène qui contribue à la fois empiriquement, mais philosophiquement, à une pensée globale de l'environnement, une pensée globale de la destruction de l'environnement. Et c'est particulièrement le cas quand on regarde l'absence l'absence en fait des principales penseurs de l'esclavage et de la colonisation, de la question raciale, des discussions qu'on va avoir sur la question environnementale. Le résultat est qu'on arrive à un fossé en fait que j'ai rencontré. Enfin, je pense que cette journée et ces concepts de plantation océane ont la possibilité d'essayer de franchir ce fossé, de bridge the divide, qui fait qu'on peut sortir d'une conception anthropocène qui même si n'est pas explicitement dite comme ça, mais prend les allures d'un fardeau de l'homme blanc. En écho au poème de Rudyard Kipling. Et donc, dans les recherches que j'ai menées, dans ce que j'essaie de faire en ce moment, je suis l'invitation de Douglas et de Baldwin à repenser le récit politique américain, et je le transpose à la question anthropocène et à penser l'écologie depuis, mais vraiment à la penser depuis cette histoire coloniale esclavagiste des Caraïbes. Donc là, je vous passe juste une petite œuvre de Gordon Bennett, qui est un artiste d'origine aborigène australienne, qui décrit finalement, enfin qui critique ce mythe de l'homme blanc avec James Cook au milieu et toutes ces dates qu'on peut voir. Mais peut-être c'est pas très clair ici. Alors, je pense que le terme anthropocène, contrairement à ce qu'a dit Andreas Malm ce matin, ou d'autres pensent que ce n'est pas simplement un changement de mots, je pense qu'il y a que ce terme offre des outils conceptuels et épistémiques et pointe vers des possibilités de raconter les enjeux écologiques et de raconter ces histoires qui sortent de cette perspective coloniale que j'ai tenté de décrire en début. Et peut-être que l'aspect le plus fondamental de ce terme, c'est de mettre en avant la dimension violente de l'anthropocène. Les plantations, enfin, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Linda ce matin, mais les plantations désignent ces lieux qui sont géographiquement externalisés, mais qui vont concentrer une violence qui est essentielle aux démocraties occidentale, comme l'a décrit Achille Mbembe dans son dernier livre. Elles exposent finalement cette face cachée de la modernité. Et je pense que ça offre aussi des possibilités de penser cette histoire en ayant cette co-construction de monde comprenant humain et non-humain, même si la perspective latourienne ne permet pas de penser ces questions de pouvoir et de justice, je pense qu'on ne peut pas non plus l'effacer. Enfin, je pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'il y a réussir à conceptualiser ces enjeux de pouvoir et de justice à partir de la présence des humains et non-humains est importante. Je pense que ça conceptualise et ça déshémogénise ce récit de l'anthropocène à travers les différentes formes de relations qui se créent à l'intérieur et à l'extérieur de la plantation, mais aussi à travers les différentes capacités d'acteurs ou des non-humains à l'extérieur et aussi à l'extérieur. Donc voilà, j'en viens à cette proposition principale qui est de penser l'anthropocène depuis la cale du navire négrier. Enfin, métaphoriquement ou conceptuellement, c'est une proposition ouverte pour le faire. Donc, là, c'était la partie un peu... c'était la proposition. Ce que je propose dans les 10-15 minutes qui me restent, c'est d'essayer d'exemplifier ça à travers un cas d'étude. Et le cas d'étude que je vais prendre, c'est celui de l'usage des... celui des bananeraies en Martinique et en Guadeloupe, et notamment un sujet sur lequel je travaille beaucoup, qui est celui de l'usage de pesticides dans les bananeraies, notamment un pesticide en particulier. On va commencer par une scène. Nous sommes le 23 mai 2017, place de la République. Chaque année, il y a un événement très populaire qui est la commémoration des victimes de l'esclavage. Un peu différent de cette commémoration officielle qui se fait par le président de la République au Jardin du Luxembourg, où il faut avoir des places, il faut réserver, sinon on ne rentre pas. Là, sur la place de la République, tout le monde vient. Sur la scène, un homme, une femme, un groupe musical, une voix écho l'abysse de l'esclavage. On va écouter. Est-ce qu'il y a du son ? Enchaîné en calabatola, ce qui veut dire enchaîné dans la cale du navire négrier. Donc là, avec une voix puissante, un homme essaie d'atteindre ces profondeurs métaphysiques d'un peuple qui est né de ce passage du milieu. Et pourtant, cette voix sur scène est mise entre parenthèses par deux drapeaux très fiers d'une production, d'une compagnie bananière, la compagnie la banane de la Guadeloupe et de Martinique. Comme si, peu importe le cri, peu importe la douleur qu'il essaie de faire partager, l'expérience sensible, le récit prendrait toujours place sur la scène de la plantation. Donc, je vais vous parler de ce cas. Je pense que je peux passer sur l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe, si ce n'est que rappeler que ce sont deux départements, enfin, régions maintenant, enfin, départements, régions d'outre-mer. Qu'il est important de savoir que il y a toujours, en tout cas, toujours de fortes inégalités entre les Outre-mer et la France hexagonale. Une preuve de cela est la loi 2017 pour l'égalité réelle des Outre-mer qui a été actée, qui constate en fait ces inégalités de développement assez fort. On a une population ethniquement avec plusieurs groupes, mais majoritairement des groupes de descendance africaine, indienne, et une minorité blanche qu'on va appeler en Martinique les Béquiers, en Guadeloupe les Blancs Pays. La particularité de cette minorité, c'est que elle a une identification très forte à l'histoire de l'esclavage, où elle se revendique comme étant les premiers maîtres et les premiers colons, les véritables possesseurs de l'île aujourd'hui. On a une économie qui est très dépendante des imports, de l'importation, avec la viande, le lait et les énergies fossiles, bien sûr. Enfin, on ne produit pas notre propre énergie. Toutes les voitures qu'on a en Martinique, en Guadeloupe, ne viennent pas d'énergie qui a été créée en Martinique, ou produite en Martinique. Et bien sûr, on a une crise sociale très importante, pas seulement en Martinique, en Guadeloupe, mais dans tous les départements, enfin dans beaucoup de départements d'outre-mer, avec un fort taux de chômage, un grand taux de pauvreté. Donc, quelques mots sur la banane. Donc c'est vraiment en 1960 que la banane devient le premier produit agricole antillais. Après la diminution de la chute de l'industrie sucrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des bananes produites aux Antilles sont exportées en France et en Europe, enfin France hexagonale. Ça emploie à peu près 10 000 personnes. Et qu'on a une production qui est inégale, hein, c'est-à-dire qu'on a peu de producteurs qui détiennent des terres très grandes et qui produisent, le gros du tonnage. On a 6% on a 9% des producteurs qui font 66% de la production. Bon. Oui, parce qu'entre les deux, tu as une catégorie qui fait les 30% qui restent, quoi, enfin les 30% qui restent. Alors, peut-être un petit mot sur la puissance de cette industrie et aussi le récit qu'ils tentent de mettre en place. Espèce de labellisation finalement de la Martinique et de la Guadeloupe en tant qu'île de bananes. Donc là, ce sont des images d'une campagne publicitaire de 2005, où on voit des grands sportifs martiniquais guadeloupéens qui ont ce slogan « La banane, rien ne peut la battre ». Là, on a des affiches publicitaires qui étaient mises en place à l'aéroport Aimé Césaire. C'est-à-dire quand vous prenez l'avion, vous allez en Martinique, vous arrivez à l'aéroport et vous êtes accueillis par ces images. Est-ce que c'est ça ? Non, voilà. Et vous voyez que ces images, en fait, alors d'abord, il y a une diversité bien représentée. On a le blanc, l'indien à droite, la femme, l'homme noir à droite aussi. Et puis, on a un peu des slogans. Alors, vous n'avez pas peut-être réussi à les voir, mais on a le respect de l'environnement, c'est dans ma nature. Où qu'elles aillent, je suis l'ambassadrice de mon île. Je m'engage pour la terre avec la banane. Et puis, on a la question du savoir qui est très clairement positionnée du côté de l'homme blanc. Enfin, voilà, faut le dire. Enfin, voilà. Et pareil, bon, ça, c'était en septembre 2017. J'étais en Martinique. On est accueilli par cette énorme banane quand on accueille les bagages. Et voilà, on revient à cette scène première où, finalement, on célèbre... On commémore l'esclavage et on est quand même accueilli par cette entreprise et par cette présence de la banane. Voilà, donc pour montrer comment finalement le plantationocène se pense aussi avec, même aujourd'hui avec cette imaginaire, cette présence de l'esclavage dans ce cas précis. J'ai combien de temps en fait ?
Comme tout le monde, c'est-à-dire on avait des créneaux 30 minutes, mais je n'ai pas noté exactement à quelle heure tu as commencé.
Ok, donc c'est bon, juste. Alors, là, je vais parler d'un aspect particulier, finalement, de ce plantationocène qui n'a pas non plus été vraiment abordé aujourd'hui, parce que, effectivement, l'anthropocène est dominé par la question de réchauffement climatique, mais que l'anthropocène désigne aussi un ensemble de phénomènes, enfin qui sont pas, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il n'y a pas que le gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il y a aussi toute cette diffusion de déchets de substances toxiques, et y compris de pesticides. Donc les Antilles ont connu finalement, pardon. Ça dépend, mais en tout cas, les Antilles ont connu finalement dans ma thèse, je me suis intéressé aux conflits liés à des problématiques écologiques aux Antilles, et il y a eu deux problèmes qui ont suscité beaucoup d'attention. D'une part, il y a eu l'épandage aérien qui répond à une certaine maladie du bananier qu'on appelle la cercospolyose noire, en anglais c'est black cicatoca. Et puis, il y a eu ce qui défraie la chronique un peu en ce moment, qu'on a appelé qu'on appelle le chlordécone. C'est un pesticide qui a été utilisé aux Antilles pendant une vingtaine d'années pour lutter contre ce petit charançon du bananier. Alors, cette contamination a finalement trois caractéristiques principales, parce que ce pesticide, le deuxième, le chlordécone, a entraîné une contamination importante. D'une part, elle est durable. Donc elle peut durer entre 60 ans et 7 siècles, selon les types de sols. Il faut savoir qu'un sixième de la production mondiale de chlordécone au monde a été répandue sur 20 000 hectares de terre, densément peuplée.
Tu veux dire 20 000 hectares en Martinique, en Guadeloupe ?
Ouais. Ouais. Ça correspond à peu près à 300 tonnes de substances actives, en fait, sur 1100 tonnes.
Attends, un sixième de la...
De la production globale.
Et elle a été vendue en Martinique.
Voilà, ouais, donc le monde a produit un total de chlordécone.
Ouais.
On divise par 6, ben, il y a un sixième de tout le monde qui est répandu sur 20 000 hectares de terres agricoles.
Non, mais 20 000 hectares.
20 000 hectares.
Se trouvent où, les 20 000
en Martinique et en Guadeloupe.
Ah, mais c'est énorme, c'est énorme.
Martinique,
c'est
oui. Énorme. Le deuxième caractéristique, c'est que cette contamination est généralisée, enfin, comme tous les toxiques. On en trouve bien sûr sur. Donc ça a contaminé un quart des terres agricoles en Martinique et en Guadeloupe. On en a retrouvé dans 100% dans les ressources aquatiques de Martinique, 80% en Guadeloupe. Un aliment, enfin ça c'est une étude qui date un peu de 2007 ou 2008, un aliment sur 10 est contaminé. Et enfin on le retrouve dans le sang des femmes enceintes, dans le lait, dans voilà, chez les hommes. Bien sûr, elle est délétère, donc c'est un perturbateur endocrinien et un agent cancérigène qui, donc on sait depuis 2010, donc on savait depuis 1979 que le Centre international du cancer en recherche à cancer l'avait classé comme cancérigène probable, 2B. On sait depuis 2010 que c'est un cancérigène avéré, enfin que c'est un agent, enfin l'exposition à au chlordécone augmente les chances de survenir du cancer de la prostate. C'est pas le seul problème, ça aussi ralentit en fait le développement cognitif des enfants. Enfin bon, voilà, perturbateur endocrinien. Pourquoi c'est important? Parce que bon ben voilà, la Martinique, la Guadeloupe sont des territoires où le cancer de la prostate est un problème très grave pour tout un ensemble de raisons. Mais voilà, en 2012, la Martinique avait le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Je précise tout de suite, ça ne veut pas dire que le chlordécone est responsable de tous les cancers de la prostate. Voilà, n'importe quel épidémiologiste ou écotoxicologue dirait qu'en fait il y a un ensemble de facteurs, etc. Mais on sait que ça augmente les chances.
Voilà. En Guadeloupe, il n'est pas utilisé ?
Si, si. Mais en fait, là, il y a eu une en fait, voilà, il y a des registres de cancers qui n'étaient pas updaté, voilà, qui n'était pas harmonisé. Enfin, voilà, donc c'est ce qui explique la différence. Mais après, il y a eu des études qui ont été faites et qui font que, d'une part, il diminue un peu le taux pour la Martinique, et il augmente un peu le taux pour la Guadeloupe et que ça arrive après au même niveau. Mais bon, ça, c'est un classement standard. Donc, qui veut dire que voilà, c'est quand même un problème important. Bien sûr, il y a des conséquences sociales, économiques et j'ai envie de dire anthropologiques. Il y a une aliénation du rapport à la Terre qui se fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chlordécone est très ancré dans le sol, mais par contre va contaminer très peu tout ce qui est fruits et légumes hors sol. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez une parcelle qui est contaminée au chlordécone, ben, vous pourrez peut-être moins cultiver, enfin, selon la parcelle, des patates douces, des ignames, toutes les racines, légumes racines qui sont très importantes dans dans l'alimentation caribéenne, même précolombienne.
Mais les bananes ne sont pas contaminées.
Les bananes ne sont pas contaminées. Ce qui veut dire que on renforce finalement la culture qui a créé cette contamination est renforcée, ou ben oui, il y a de fortes chances que beaucoup de bananes qu'on achète aujourd'hui dans les sont produites sur des terres qui sont contaminées. Mais les bananes elles-mêmes ne sont pas contaminées. Ce que ça fait, c'est que ça exacerbe la dépendance. Voilà, 95% d'export. Et du coup, il faut savoir que la production d'igname et de patates douces en Martinique et en Guadeloupe a diminué ces 20 dernières années. Ce qui fait qu'on va devoir importer ces ignames, ces patates douces, etc. Il y a aussi une aliénation des eaux. Donc là, vous avez les zones en fait où la pêche est interdite, la pêche côtière est interdite. Donc ce sont des langoustes ou des crabes à certains moments, mais des poissons dans les pêches qui est interdite depuis 2008 et 2009. Ça pose un ensemble de problèmes, un problème au niveau des trajectoires sociales des personnes qui vivent de la pêche, et même au niveau des pêcheurs qui vont devoir aller pêcher dans les autres zones, et ça augmente la pression, avec un ensemble de problèmes là-dessus. Et voilà, il y a un rapport à l'eau à la mer qui est changé par cette contamination. Et puis il y a aussi un rapport qui est peut-être, qui est au cœur finalement de, on pourrait dire au cœur de l'anthropocène, je sais pas, mais c'est le rapport au corps. Et le rapport au corps, il s'illustre aussi dans le rapport de la mère à son enfant, le rapport maternel. Là, c'est une militante écologiste que j'ai rencontré qui m'a raconté, enfin je vais pas dire comment finalement le fait qu'elle apprenne qu'elle a été contaminée, exposée au chlordécone et qu'elle sache que le chlordécone affecte son enfant et se demande si elle n'a pas empoisonné son enfant. Et la question ici n'est pas de se dire parce que quand on discute avec les médecins, ils disent de toute façon même s'il y a des pesticides, c'est quand même mieux le lait maternel que d'autres formes de lait, etc., pour le développement des défenses immunitaires de l'enfant. Le fait est qu'il y a un doute qui est institué dans la propension nutritive du lait maternel à son enfant. Et pareil, ça peut aussi expliquer. Il y a des revendications en termes de génocide, de génocide par stérilisation, ce que ça aussi supporte comme questionnement pour les hommes par rapport à leur fonction reproductive. Vu que j'ai une demi-heure, je vais passer sur ce sujet-là. Je vais terminer sur ça, en fait, sur la résistance. En fait, pour moi, quelque chose qui manque énormément dans le dans ce que j'ai pu lire, et bon, je prétends pas avoir les mêmes connaissances que Pierre et Jean-Baptiste là-dessus, mais sur Anthropocène, c'est précisément l'homogénéisation de ce récit a pour conséquence de peut-être occulter les formes de résistance à ce rapport à la Terre, cette manière de se penser, de se concevoir la Terre. Et je pense que le Pantasnusen offre ces possibilités-là, et offre les possibilités de regarder différentes formes de résistance. On peut trouver les résistances déjà au moment de l'esclavage, le ralentissement du travail, les empoisonnements, les révoltes, le marronnage, pourquoi pas penser l'abolitionnisme comme une forme de résistance anthropocène. Pourquoi pas, proposition. On peut trouver les mouvements sociaux, les mouvements agricoles. Alors, je parle en présence d'une spécialiste d'une lutte importante en Martinique, 1870. Mais que ces histoires-là font aussi partie de l'histoire d'Anthropocène, pourquoi pas. Il y a les résistances écologistes qui ne viennent pas nécessairement de l'intérieur des plantations. Ce sont des associations environnementales qui vont... par exemple, qu'on voit aujourd'hui, je vais montrer quelques images tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les résistances des non-humains. Ça, je vais laisser pour peut-être la discussion. Là, je parle juste d'une manifestation qui a eu lieu en Martinique en 2012, au Lamentin, à l'encontre des pandas gériens, où finalement, on voit des écologistes qui vont prendre les flambeaux et se diriger vers la plantation. Et on sait ce que ça comporte comme imaginaire d'esthétique, d'avoir une foule qui prend les flambeaux et qui avance et marche déterminée vers la plantation. La carte à gauche signifie juste que c'est une plantation qui est là depuis 1970 et qui porte encore le même nom, et qu'il y a ces continuités qui restent, qui sont soulevées même dans le discours de ces personnes, en fait, qui vont, oui, on veut avoir un environnement sain de pesticides, mais on veut aussi critiquer et ébranler ce récit, cette prégnance et ce legs colonial esclavagiste. Là, on peut juste voir qu'il y a aussi... il y a un mouvement écologique martiniquais qui est très fort et qui est très imprégné de ce récit, de cet imaginaire esclavagiste. Et que la préservation de l'environnement n'est pas vue uniquement comme la préservation d'un espace sain, d'une conservation, mais vraiment comme une lutte, non seulement pour la dignité, pour les droits, mais aussi comme une manière de vraiment confronter et ébranler cet héritage colonial esclavagiste. Et voilà, je termine sur des formes de critique artistique. Donc, je regarde Jean-François parce qu'il y a une de ses œuvres qui est juste là, donc il va nous en parler plus. Mais pour dire qu'il y a, à côté de ces manifestations, de ces discours et de ces... il y a un ensemble d'artistes qui produisent des œuvres critiquant exactement ce plantationocène. Et la dernière en date reste cette pétition qui a été lancée en janvier, il me semble, ou décembre, l'année dernière, critiquant le chlordécone, avec de plus en plus de manifestations ces jours-ci visant à vivre dans un environnement sain, à limiter la présence du chlordécone dans les denrées animales et végétales aujourd'hui.